Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, mais en vélo. Quelque part en France, en gravel ou à l'autre bout de la planète dans l'Himalaya, les déserts les plus durs du monde. Nous partons avec Steven Le Yarrick. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition, est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous avons un aventurier. Le truc de Steven Le Yarrick, c'est le vélo. Oui, comme il l'explique, son truc à lui, c'est vraiment de faire du vélo. Ancien cycliste élite, Steven Le Yarrick a décidé d'aller au bout de ses rêves. Il quitte ce qui ressemble à un job en or et se lance dans l'aventure. Après avoir parcouru 150 000 km à vélo, fait 120 jours au Népal pour rencontrer les plus grandes montagnes du monde, couru deux Ironman, fait le tour du Mont Blanc à vélo et traversé la France à vélo, il décide de traverser l'Himalaya népalais en vélo et alpiniste sur la trace du Great Himalaya Trail. Un drôle de défi de 2000 km et 90 000 mètres de dénivelé positif dans lequel il a souvent emporté le vélo tant les chemins sont difficiles. Et puis Steven Le Yarrick aime bien les déserts. Il a réalisé le record du monde entre Paris et Dakar, 5600 km en 20 jours. Et quand nous diffusons cet épisode, il se prépare à partir découvrir la Namibie, traverser le plus vieux désert du monde. 20 jours, 4000 km, 200 à 400 km par jour, ponctués de la traversée des lieux les plus emblématiques de ce pays. Et si tout cela vous paraît fou, dites-vous que ce n'est qu'une partie de son projet 666, 6 déserts, 6 continents, 6 fois 1 mois, pour découvrir comment la planète est en train de changer. Mais pas besoin de partir aussi loin pour croiser Steven et découvrir son sens de l'aventure. Il organise aussi les Gravelman Series partout en France pour partir à l'aventure à vélo le temps d'un week-end. Ensemble, nous avons discuté de son parcours et de son goût de l'aventure, de son alimentation bien entendu, des difficultés, de sa sensibilité à certains plats, mais aussi de ses contraintes techniques ou encore de sa discussion avec Thierry Marx pour trouver le plat idéal pour ses aventures. Si vous voulez en savoir plus sur notre invité, je vous encourage bien sûr à regarder les notes de l'épisode pour suivre tous les liens et aller consulter le site du podcast apiron.fr/podcast ainsi que le compte Instagram @podcastsportetnutrition sur lequel nous publions des compléments et la recette de nos invités. Allez, maintenant c'est parti, partons à l'aventure avec Steven Le Yarrick. Bonjour Steven.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va pas mal. Drôle de période, mais ça va. Je poursuis mes entraînements et puis j'avance sur tout le reste, donc ça va.
Oui, drôle de période parce que c'est vrai que quand on regarde un peu ton parcours, être enfermé dans une zone de quelques kilomètres, ça doit être compliqué.
Ouais, après je suis pas un très bon exemple, je pense que je respecte pas toutes les règles, pas tout le temps, et voilà, et puis c'est pas une question de statut et tout ça, mais on va dire que professionnellement, je me permets quelques infractions aux règles parce que déjà j'ai jamais tout le temps respecté les règles de toute manière et en plus j'ai plein de reconnaissance d'épreuves que j'organise, j'ai des entraînements un peu partout et puis je prépare un gros projet qui demande un peu de déplacement et donc je bouge un peu plus que 10 km, il est vrai.
Ouais, c'est vrai que je t'ai vu sur ton compte Instagram, je vois les balades, etc. On va le dire, hein, toi, ton truc, c'est vraiment le vélo, de toute façon. Hein.
Ouais, j'ai commencé le vélo, j'avais 5 ans et demi, et j'ai retrouvé une photo à la 3 ou 4e course, je l'ai gagnée, et j'ai toujours, j'ai toujours cette passion du vélo, mais après... un peu moins la compétition, certainement, un peu moins la performance pure, même si j'aime m'aventurer, performer, aller vite, ou en tous les cas voir plein de choses dans un temps pas très long. Un peu, je fais comme du trail, mais avec un vélo, quoi. Et aujourd'hui, on appelle ça gravel, demain on appellera ça, je sais pas, mais aujourd'hui, c'est ce que je fais le plus, du gravel ou des aventures un peu hors du commun sur des territoires qui me font rêver. C'est surtout ça ma pratique, ouais, environ 30 000 km par an, disons.
Ceux qui connaissent pas le gravel, parce que c'est vrai que ça débarque un peu comme un ovni, ça fait un peu, il y a les modes dans le vélo, moi j'ai travaillé pour un marchand de vélo, et un jour il m'avait dit, oui, bon, tout le monde faisait du fixie, puis tous les fabricants de fixie sont reconvertis au gravel, parce que c'est la grosse tendance, etc. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne voit que ça maintenant, en fait.
Ouais. Bah ouais, parce que c'est facile à vendre, c'est la mode. Les constructeurs, ils ont tout mis là-dessus parce que je veux pas dire que c'est facile à monter, mais En gros, quand tu as quelqu'un qui arrive, qui débute le vélo, parce qu'en plus, il y a une espèce de recrudescence de pratiquants du vélo en général, que ça soit pour aller au travail, que ça soit pour se déplacer un peu plus longuement ou bien s'amuser. Et avant, tu avais le VTT, le vélo tout-terrain, donc le vélo tout-chemin, VTC, tu avais le vélo de route, le vélo de course à une époque, on appelait ça. Après, il y a eu les fat bikes, donc pour aller sur la neige ou sur le sable. Et puis voilà quoi. Et aujourd'hui, il y a ce vélo qui a été fait entre eux. En fait, c'est sur la base d'un ce qu'on appelait cyclocross avant, mais en gros, c'est des vélos où tu peux mettre des vélos de route, où tu peux mettre des plus gros pneus, donc un peu plus confortables, avec des géométries un peu plus soft, on va dire. Donc, tu as moins mal au dos, tu es un peu plus. T'es un peu plus détente et du coup tu peux aller sur des terrains un peu plus un peu plus difficiles parfois. Moi je m'aventure dans des trucs un peu qui sont vraiment à la limite du VTT enduro même parfois et ça passe quoi. Après chacun sa pratique, c'est ça le truc. Pour moi le gravel, la meilleure définition, c'est le vélo à tout faire. C'est pour ça que je parle du trail, parce que le trail, ça va de l'éco-trail 20 km ou même au trail de 10 bornes à côté de chez toi. Et voilà, il y a une course de 350 km en Suisse ou un peu partout dans le monde, quoi. Donc voilà.
Oui, alors tu dis une course de 350 km. Là, on va parler de Gravelman, qui est la course. Enfin, c'est quoi? Ce sont des événements parce que c'est pas une course, ce sont des week-ends finalement.
Ouais, en fait, l'idée de Gravelman, c'est venu d'un constat simple, c'est que pour moi, le début de l'aventure à vélo, pour moi, enfin, dès que pour préparer mes aventures, souvent, je fais des sorties de 250 à 350 km, voire 500 sur des week-ends. Et bon, 500, ça commence à faire, mais je me suis dit, pourquoi ne pas créer un espèce de concept entre des courses d'ultra qui existent comme la Transcontinental Race, la Race Across America et d'autres trucs un peu moins connus mondialement mais qui commencent à être connus en France. Et pourquoi pas des formats d'un week-end qui sont ouais bah la même chose qu'un UTMB peut l'être. Le mec il sait qu'il part pour entre 20 et 50 heures. Bah là, c'est ça, c'est un gravelman, c'est entre 20 et 50 heures. Et tu fais ce que tu veux. Pour moi, la seule limite, c'est de rentrer les 350 km. C'est pratiquement toujours entre 300 et 350 km. Et sur des terrains pas toujours adaptés à l'exercice. Et du coup, voilà. Ils prennent qu'un week-end, ils prennent pas trop de jours de vacances. Et les gens viennent, il y en a partout d'ailleurs. Il y en a un en Auvergne, puisque tu es en Auvergne. Bientôt, j'en ai mis à Paris, j'en ai mis dans les Alpes, j'en ai mis en Toscane, j'en ai mis dans le Pays Basque, j'en ai mis un peu partout et il y en aura d'autres ailleurs prochainement parce que les gens, j'ai pas envie de les emmener au même endroit, c'est faire découvrir la France et les régions un peu le temps d'un week-end, donc c'est un peu rapide mais ça va quoi, 350 bornes. Il y en a qui rentrent en 12 heures max. Enfin, minimum, et il y en a d'autres, parce qu'il y a une trace route et une trace gravel. En gros, trace route, c'est bon, 350 km, c'est déjà pas mal, hein. C'est 2 fois la distance d'un format Ironman sur le parti vélo, et du coup, 2 fois ça, divisé en 3, ça fait une bonne sortie de vélo pendant 3 jours, quoi. Tu fais 120, 120, et puis tu finis, mais ça se fait quoi.
Mais dis donc, il me semble avoir vu des images d'un Gravelman qui va être une édition parisienne où
Ouais.
t'en as qui ont dormi dans la forêt quand même.
Ouais, il y a un aventureux, enfin j'en avais une dizaine qui voulait dormir dehors, il s'est avéré, c'est le dormir dans la forêt, c'est une chose, mais en fait dormir dans la forêt. Dans une période en janvier, il faisait 0 degré, et en fait, il s'est mis à neiger, quoi. Il s'est mis à neiger même très très fort. Et le gars a dormi dans la forêt de Rambouillet d'ailleurs, il avait même un vélo de 40 kilos, un vélo à l'ancienne de 1980, quoi. On dirait le vélo de mon père quand j'étais tout petit. Et le gars a fini, quoi, avec des pochettes derrière, une tente et. Ouais, c'était assez fou quoi. Il a campé, il a même mangé dans la forêt. C'est cool.
Tu sais ce qu'il a mangé? Parce que tiens, comme on est un podcast pour la nutrition, bien sûr, on se demande, mais qu'est-ce
ouais,
qu'on marque sur son
vélo?
Je
crois qu'il avait des boîtes de conserve, il était un peu à l'arrache, quoi, mais pas tant que ça. Ouais, il était pas trop tube énergétique, enfin, comme il y a beaucoup dans le sport aujourd'hui. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, quoi, parce que moi, je suis pas non plus un aficionado des tubes. J'en ai tellement bouffé quand j'étais petit, enfin plus jeune dans le sport. Et ouais, du coup, je sais pas trop ce qu'il a bouffé, mais je crois qu'il s'était assez cali, ouais.
Puisque tu parles, c'est vrai qu'on n'a pas. Parce qu'on a dit, tu as commencé le vélo tout petit.
Ouais.
Après, tu es passé à l'aventure. Il y a une zone entre les deux. Alors, ceux qui ont vu ton documentaire où tu traverses. Comment, j'ai perdu le nom de la route, mais je vais la retrouver, le Great Himalayan Trail.
Ouais.
Ont un peu un bout de l'histoire sur ton parcours où finalement tu lâches la compétition pour dire c'est pas ma vie, quoi.
Ouais, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. J'étais. En fait, je m'en suis rendu compte la première fois où je suis parti de France pour aller au Népal. Je suis resté 120 jours la première année au Népal et je me rappellerai toujours. D'un moment où j'étais avec un ami qui pose la question à mon père parce que c'était juste après les Jeux Olympiques de Rio où je changeais de vie et j'avais beaucoup de jugements de valeur, que ce soit de ma famille, que ce soit d'amis ou de proches qui me disaient, mais Steven, t'as un job en or parce que j'ai été athlète. Après, bon, je suis devenu communicant pour des marques, des personnalités jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio où je suis communicant pour la Fédération Française de Triathlon. Avec des athlètes comme Vincent Louis, enfin Cassandre Beaugrand et d'autres, mais des Superman un peu et Wonder Woman du sport. Et j'ai adoré ça, mais ça a été très dur au jeu. J'ai vu un peu des miroirs, même si j'étais un microbe par rapport à ces athlètes-là. J'ai vu un peu des miroirs de ce que j'étais quand j'étais athlète. Ça m'a rendu vraiment, vraiment malheureux. J'ai fait deux burn-out, j'ai quitté tout pour aller au Népal et voilà et juste avant ce voyage-là je rencontre mon père et on discutait un peu et mon ami lui dit mais tu sais qu'il va chercher le bonheur là-bas et toi est-ce que tu es heureux et il dit ça à mon père est-ce que tu es heureux Patrick et il dit je sais pas ce que c'est le bonheur en fait et là j'ai compris que voilà mon chemin passerait par là et un an plus tard effectivement je passe 120 jours là-bas et un an plus tard je décide de traverser l'Himalaya népalais par sa trace la plus haute, quoi, le Great Himalaya Trail.
Alors, le documentaire, il est chouette. Et il y a quand même une question que je me suis posée à la fin. Je me suis dit, bon, le dalbat, t'en as mangé combien de kilos? Parce que, enfin, c'est le plat local. Et tu le dis, c'est très énergétique, justement, pour quand on fait autant d'efforts, etc. C'était ça ta base d'alimentation sur cette grande traversée ou il y avait autre chose?
Ouais, il y avait un sponsor de produits énergétiques qui m'a donné. Enfin, il y avait deux trucs quoi. Et j'avais deux sponsors. Un, c'était de la poudre, des mélanges à faire. Et en fait, j'en pouvais plus au bout d'un sachet. Du coup, je le donnais au Népalais, mais ça le rendait malade parce que lui, on lui donnait une barre énergétique une fois. Une fois, je me rappelle au premier warm-up dans la vallée de Katmandou, on était à 2000 et genre il accuse ma barre énergétique de lui avoir donné la diarrhée quoi et il me dit bordel c'est ton truc alors qu'on venait de manger des Chinese noodles, des pâtes chinoises mais hyper attends comment ça s'appelle pas un chop-suey mais bref un truc hyper épicé quoi horrible. Tous les deux avec mon caméraman, on avait mal au bide et l'autre, il nous dit non, non, c'est votre barre énergétique, c'est vous et tout. Et du coup, j'ai mangé ouais, l'équivalent de. J'avais une barre par jour, donc j'avais 60 barres énergétiques, j'avais deux sachets de l'équivalent de je sais plus combien de milliers de calories. Et après, j'avais la bouffe népalaise, ouais. Donc ça allait des boîtes de conserve quand on était en autonomie totale. Et ensuite, on allait chez l'habitant sur le chemin. Et il y a eu beaucoup de riz lentilles, qui est le plat typique là-bas. Et à la fin, j'en étais malade, ouais. Puis je bouffais des trucs, des sneakers plus bons depuis 2012, tu vois, des trucs assez sympas, quoi. Mais je préférais manger ça que du dalbat à la fin.
Ouais, moi, tu vois, le dalle, c'est mon plat préféré à la maison. J'en fais une fois, mais une fois par semaine. Mais c'est vrai que tous les jours, je me dis bon.
Ah, c'est tous les jours et matin, midi et soir. Parce que tu arrives et en fait, le dalle que tu fais toi, voilà, tu sais exactement ce que tu as mis dedans et aucune critique hein, vis-à-vis de la population népalaise. Mais partout dans le monde, c'est comme ça, notamment en Inde, enfin dans les pays asiatiques. Quand ils te disent spicy or not spicy, bah, je dis toujours pas épicé. Et en fait, des fois, c'était vraiment très, très épicé. Des fois, c'était très, très limite au niveau de la fraîcheur des trucs. Moi, je mange pas de viande. Et du coup, bah, des fois, c'était un peu compliqué. Je dis pas qu'il y avait de la viande dedans, mais il y avait, par exemple, il me faisait cuire du beurre de yak dans des tasses parce que c'est hyper énergétique et tout. Et je détestais ça. J'en étais malade, quoi. Ça sentait le bœuf sale, quoi. Et j'étais mal, j'étais vraiment mal. Et ouais, à la fin, j'étais malade. Hein. D'ailleurs, j'étais à deux doigts j'ai souhaité me faire hospitaliser en revenant parce que je me suis fait examiner et je dis, c'est pas possible, j'étais fatigué à plus pouvoir marcher, quoi. Ouais.
Ouais, parce que tu te dis, hein, dans le, tu dis, il y a des images où on voit que t'es malade, où effectivement tu, c'est, où t'en peux plus, quoi. C'est vraiment dur, quoi.
J'allais à 2 km/h. Ouais, j'ai eu une journée et demie où j'allais à 2 km/h. Et 2 km/h, quand on sait que la vitesse moyenne d'un marcheur, on va dire, c'est 3 quand tu marches bien, tu vas à 4, quoi. J'allais à 2 à l'heure et des fois j'étais sur le vélo à 2 km/h. Et là, quand le caméraman me doublait, parce qu'il a fait les 3, entre 3 et 5 derniers jours en vélo, parce que le reste, il était le plus souvent à pied quand il était là. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Et puis j'étais. Ouais, je sais pas. Il y a eu plein de choses. J'ai bu des choses limite. L'eau est un peu limite partout. Tu bois l'eau des alpages. Enfin, c'est pas vraiment des alpages parce que t'es à des fois à 6000. Mais tu sais pas. Je savais pas ce que je mangeais, ce que je buvais. Alors à la fin, je prenais que des trucs bouillis, mais à la fois. En fait, je voulais juste aller bien, quoi. Alors, tout ce qu'il me donnait, je le prenais, mais ouais, c'est bizarre parce que aujourd'hui, je refais, je suis sûr que je ferai les mêmes conneries parce que j'ai une espèce de sérénité vis-à-vis de la bouffe. Mais en même temps, tu vois, là, encore ce week-end, je suis allé rouler et il y avait des fontaines et je bois plus dans les fontaines depuis l'Himalaya, quoi. C'est con, hein. J'étais à Gap, dans les Hautes-Alpes aussi, il y a 15 jours, 3 semaines, et tout le monde buvait dans les fontaines sauf moi. J'ai trop peur, quoi. Parce que t'es malade, ça te dégomme 2 jours, quoi. Alors, vaut mieux perdre en performance pendant 2 heures que être 15 jours mal, quoi.
Mais alors je vais te donner raison parce que bon en Auvergne tu sais qu'on a on a de l'eau, on a de bonne eau partout. Mais j'ai vu sur une course, effectivement sur un trail, alors les coureurs du 100 km étaient passés par une fontaine, un jour il faisait très chaud, et tous ceux qui avaient bu étaient tous malades. Alors que l'eau était soi-disant officiellement potable, mais peut-être avec est-ce qu'il y a eu des vaches qui avaient bu dedans ou quoi que ce soit. Donc c'est le genre de mésaventure qui peut aussi arriver finalement sans traverser le monde entier, quoi.
Ah, mais c'est le pire, c'est la pire altitude, l'altitude de l'Auvergne, parce que t'es pas très haut, il y a des animaux, il y a des habitants, enfin, il y a des humains, quoi. Et donc, il y a de l'agriculture, il y a des alpages, il y a des chèvres, il y a plein de choses. Et puis, il suffit qu'il y ait une ferme juste au-dessus ou encore au-dessus. Il suffit de rien, en fait. Un gars qui a traité, j'en sais rien, des plantes ou essayé de... Et il suffit qu'il y ait un truc qui tombe. Tu es un peu sensible du ventre parce qu'en plus, tu fais un effort physique. Alors là, c'est fini. Alors, je prends pas le risque, mais ouais, parce que j'ai roulé avec des locaux à Gap. Pareil, ils me disaient comme en Auvergne, ouais, tu peux boire. Hein. Sinon, on boit. J'ai dit, ouais, mais non. Non, non, les gars, vous êtes locaux, quoi. Moi, je prends plus le risque. Ouais, je fais de plus en plus gaffe. Après, je suis capable de faire des conneries de pur plaisir. Quand je parlais des sneakers, là, c'est... Ouais, quand je fais du vélo, dès que je... Enfin, quand je fais du vélo, beaucoup de vélo, disons, je fais toujours une pause dans la journée où je me fais plaisir, quoi. Ce que je préfère quand je fais une nuit sans dormir, sur des gros trucs, c'est le petit déjeuner, quoi. Tu vois, t'arrives à la boulangerie, ouais, je dégomme tout, quoi. Des fois, c'est un peu hallucinant pour les mecs qui sont avec moi parce qu'ils disent, mais c'est pas possible. Vous êtes combien dans ton corps? Parce que je crois pas que tu vas pouvoir manger ça. Une fois, j'ai acheté 12 pains au chocolat en même temps, parce qu'il y avait un pack en fait. Il y avait un pack de 7 pains au chocolat pour le prix de 2 ou je sais pas quoi. Et je traversais la France sur une épreuve qui s'appelle la French Divide là. Et j'étais quatrième, je crois. Et j'arrive, on était avec Joachim Edler, qui est un des meilleurs en 24 heures VTT. Et il me dit, mais je prends un sandwich. Déjà à Agen, il était 7h15, quoi. Et il me dit, ok, d'accord, je comprends. Et je prends un pain au chocolat, deux pains au chocolat. Et après, j'achète le pack de 7 là. Et il me dit, non, Steven. Et en fait, j'en ai attaché deux ou trois sur mon guidon et le reste, je l'ai mangé, quoi. Mais ça, tu me dis ça aujourd'hui, j'ai même pas envie d'en manger un. Parce que quand je fais attention, je fais attention. Mais enfin, je suis pas non plus stakhanoviste de la bouffe. Hein. Je suis pas fou non plus. Mais et puis, je m'entraîne quand même pas mal. Mais ouais. Quand je suis en épreuve, c'est pas comme à pied. À pied, si tu prends un pain au chocolat, t'es pas bien pendant 30 bornes, quoi. Ou même pendant 5 bornes.
Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. Moi, bon, j'ai fait un peu de VTT dans ma jeunesse. En courant, bon, on est ballotté un peu dans tous les sens. En vélo, je me rends moins compte d'avoir ce sentiment de se dire, je mange un truc un peu lourd, je le sens tout de suite passer en courant. Alors qu'en vélo, j'ai pas le sentiment que qu'on avait les mêmes contraintes.
Non, il y a pas. Je pense pas qu'il y ait les mêmes contraintes. Après, il y a des gens qui digèrent pas du tout bien. Perrine Fage, avec qui je fais beaucoup d'aventures, Perrine, je la fais manger, elle remonte un col. Je sais qu'elle a perdu 40% de son potentiel, quoi. Et c'est horrible parce que tant qu'elle a pas fait une suée, faut attendre 2, 3 heures, sinon elle est pas bien, quoi. Et moi, ça me donne une force énorme. Et des fois, c'est juste des stops. Voilà, stop, les resets du cerveau, c'est-à-dire que tu te poses, tu fais autre chose que faire du vélo. Et voilà, parce que moi j'ai un gros problème d'oreille interne, ça m'a beaucoup handicapé, ça m'handicape en trail aussi, parce qu'il y a beaucoup de chocs. Et en triathlon, quand je faisais les transitions natation, vélo notamment, parce que tu es couché, après tu es un peu moins couché et après tu cours. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes d'oreille interne chez les coureurs à pied et les triathlètes, et moi j'ai ça, ouais. Donc en vélo, je suis un peu moins touché par ça.
J'ai un peu de mal à me rendre compte, tu vois, pour quelqu'un qui ne roule pas, parce que, enfin, ça fait, enfin, il faut que je m'achète, alors pour tout te dire, en fait, hein, il faut que je m'achète un vélo, parce que je me suis lancé dans un défi Ironman pendant 2 ans. Donc, là, j'étais en train de regarder les gravels, tu vois, justement, c'est pour ça que je me dis, tiens, j'ai un spécialiste de gravel sous la main, mais, je me disais, parce que moi, sur mes chemins, tu vois, j'ai des beaux chemins partout, autour, je me dis, j'ai un peu de route, je passerai sur la route, sur les chemins, etc. Mais,
Ouais.
Je me dis, tiens, ça doit être super cool, etc. Mais j'ai un peu du mal à me rendre compte, tu vois, la consommation de calories, d'énergie qu'on fait en vélo, tu vois, parce que je me dis, on est aidé quand même. Enfin, je dis pas qu'il y a un moteur dans les vélos, parce que c'est pas le cas. Mais, enfin, quoique maintenant les VTT électriques, ils avancent à une telle vitesse, mais tu vois, j'ai du mal à me rendre compte, finalement, la dépense énergétique que tu as sur un vélo.
Ça dépend de ton intensité d'effort, ça dépend de ton poids, ça dépend de ta manière de t'alimenter. Mais par exemple, quand j'ai fait soit l'Himalaya, soit Paris-Dakar à vélo, parce que c'était presque la même dépense énergétique, pour moi, c'était entre 10 et 12 000 calories par jour que je dépensais. Donc, ouais, normalement, un être humain normal français dépense 2 500 calories. Et du coup, ouais, tu peux bouffer un peu n'importe quoi, en tout cas beaucoup de calories, tu peux pas du tout les rattraper. Donc tu perds du muscle, tu perds de la graisse, tu perds de l'eau. Et ouais, il faut du temps, quoi, pour récupérer soit ce poids, soit en tous les cas assimiler tout ça. Mais si t'es pas très entraîné, en fait, tu vas avoir des coûts énergétiques qui sont importants. Après, tu as le facteur limitant de l'intensité, c'est-à-dire que si t'es pas entraîné, bah tu vas rouler un peu moins vite, du coup, voilà, mais si tu vas rouler 3 heures en gravel, en gros, je pense que ça équivaut en coût énergétique à, enfin, je caricature, mais à 4-5 heures de vélo sur route. Après, c'est pas tout à fait vrai chez toi parce que si t'as des cols partout, et puis ça dépend si t'es sur le vélo ou à côté du vélo ou machin. Et puis les chemins sont quand même assez dur, même en gravel en Auvergne. Mais si tu vas sur un parcours où il y a 1000 ou 2000 mètres de D+ sur 100 km, ouais, tu vas dépenser ouais, 2 000-3 000 calories, voire 4 000 si tu vas vite, quoi. Après c'est, ouais, ça dépend des organismes aussi, quoi. Moi, je suis gros en ce moment, je pense que je dépense plus de calories. Et... voilà, quoi.
Ouais, alors je me dis que ça va être quand même relatif le côté gros des choses. Hein.
Ouais, non, je suis puissant, disons. Non, mais là, j'ai beaucoup de volume musculaire, j'ai fait beaucoup de préparation physique, j'en ai profité parce qu'il y a eu plein d'épreuves décalées, plein de projets un peu pas avortés, parce que j'avorte jamais mes projets, mais tout est un peu décalé avec le Covid, et du coup, j'ai poussé un peu la prépa physique à bloc, et ouais, j'ai 3 ou 4 kilos de plus que je dois en avoir, voire 5. Et aussi, quand je prépare un projet aussi long que je le prépare là en Namibie, qui est un projet de, bon, on va dire, plus de 4 000 km en 20 jours, qui est 80%, 90% même en gravel, avec des températures qui vont aller jusqu'à 40 degrés, là, je vais perdre entre 8 et 10 kilos. Ouais. Donc, si je les ai pas, ces kilos, je vais finir anémié comme un coureur du Tour de France qui fait deux fois le tour, en gros. Ouais. Parce que ce sera 300 km par jour en objectif à peu près. Donc ça fait beaucoup d'énergie. Ouais. Et puis là-bas, je sais pas comment je vais manger. Les éléphants, ils sont pas faciles à chasser. Hein. C'est des bêtes qui vont être compliquées à attraper. Non, mais ouais, il y a ça, quoi. Je sais que je vais pas pouvoir m'arrêter tout le temps sur la route. Ouais, ça va pas être évident, ce projet Namibie. J'étais avec un ami là qui travaille à l'UNICEF là-bas. Il m'a dit, ouais, fais quand même gaffe, parce que des fois, pendant 200 bornes, tu n'auras pas de ravitaillement et pas possibilité de boire ou de manger autrement que par toi-même. Donc ouais, c'est autre chose, c'est une autre gestion de l'alimentation, de ton hydratation. Tout ce que tu manges, il faut, ouais, je dis rationner ou rationaliser dans mon film de Dakar, parce que c'est drôle que j'ai dit ça, parce que maintenant je suis très rationnel sur tous ces trucs-là, quoi. Après, évidemment, je peux me faire plaisir. Par exemple, je mangeais du chocolat avec du pain tout le Sahara, parce que c'est ce que je trouvais. Parce que au début, je leur disais, je veux de la brioche. J'avais un focus sur la brioche. Je dis, je veux de la brioche. La brioche, il me sortait tous les gâteaux qu'il y avait dans son magasin, le gars. Il me sortait 15 paquets de gâteaux qui n'étaient pas de la brioche, mais j'avais ce focus brioche avec du chocolat, parce que j'en avais envie, ça passait bien, il faisait 40 degrés. Et voilà, peut-être qu'en Afrique, j'aurais envie d'autre chose, du riz ou j'en sais rien, ou du thé, mais ça dépend des projets. Généralement, j'aime bien les trucs. Par exemple, j'ai aucune envie de manger une glace quand je suis sur un projet d'aventure dans le Sahara, quoi. Mais dans l'Himalaya non plus, d'ailleurs. Et c'est le truc qui te donne le plus envie, en fait. Je faisais un focus sur les sneakers et sur les Mars, parce que dans l'Himalaya, tu trouves que ça. Et du coup, ils trimballent des palettes entières de Red Bull dans le dos, et c'est violent, ça fait peur, en fait. Tu vois toute la société de consommation dans le dos d'un porteur. Ça, je trouvais ça dingue. Alors qu'ils ont des produits, bah, on peut parler de miel, justement. Il y a un des miels les plus chers du monde qui est au Népal, et il n'y a pas de miel. Et si tu veux trouver du miel, c'est du faux miel, c'est du miel qui est importé de je sais pas où, Turquie, je crois, ou je sais pas quoi. Et le miel, tu vois, il n'y a pas vraiment made in Turquie. Bref, c'est un mélange de trucs. Ça a été fait avec du sirop de glucose, mais ouais, ils ont des richesses énormes, mais ils les exploitent pas, alors tu manges du Delbot. Voilà, mon résumé.
C'est un drôle de résumé, c'est vrai que vu comme ça, tout d'un coup, l'aventure, elle semble, comment dire, en tout cas sur le plan alimentaire, ça me semble être compliqué parce que j'ai pas souvenir en plus d'avoir vu des sacoches sur le vélo, sur ton VTT quand tu fais l'Himalaya là.
Non, c'était un choix. C'était vu aussi avec le Népalais qui a passé très grande partie avec moi. Il m'a dit, si tu charges le vélo, fais gaffe, parce que il va y avoir vraiment des grosses descentes, et c'était vrai, quoi. Donc j'ai privilégié un sac à dos qui était quand même important, parce que j'avais matériel un peu photo aussi. J'avais matériel j'avais de la bouffe, j'avais du matériel d'alpinisme, donc fallait charger un peu. Alors tu peux mettre ça dans ton vélo, mais un, le bikepacking n'était pas aussi développé. Deux, j'avais un sponsor, mais les pochettes n'étaient pas absolument parfaites. Donc j'avais des trucs que j'ai gardés sur le vélo, mais c'était surtout pour le téléphone, des trucs à portée de main. Mais l'avantage d'avoir le sac un peu chargé, notamment avec des trucs mous dedans, c'est que je pouvais poser le vélo dessus. Et j'ai porté des fois jusqu'à 14 heures par jour, quoi. Donc vaut mieux que ça soit sur un sac que sur ton dos. C'est ce que ça fait un peu mal, mais.
Ouais, parce que c'est vrai que quand on voit le documentaire, on se dit c'est vrai que enfin tu l'as porté quand même un sacré paquet de temps ce vélo quand même. Hein.
À porter, pousser, même en descente, ouais, c'était dur. Ça, c'était très très dur parce que j'étais pas prêt à ça. Et après, j'avais les mollets assez musclés, mais ouais, je sais pas, c'était 10, 15 000 squats par jour pendant 60, enfin 51 jours, mais ouais, c'était dur. C'était dur. Et puis le Népalais, il était tellement fort quand il était avec moi à pied, il était énorme. Enfin, qu'il ait un vélo ou pas un vélo, il allait à la même vitesse en fait. Donc voilà.
Oui, puis il challenge en plus le gars là.
Bah ouais, mais ça arrive tous les jours. C'est-à-dire que si je double un gars en Auvergne, par exemple, bah s'il voit un peu ce qui je suis ou machin, moi c'est pareil. Je sais que Pierre Roland, il est dans la région, mais en fait moi je suis moins comme ça maintenant. Mais par exemple, quand je vais m'entraîner avec un gars qui est plus fort que moi, bah, ça m'oblige à me challenger parce qu'il fait 20 kilos de moins que moi et tout ça. Mais je sais que je vais pas le suivre dans un col, mais je vais me battre pour essayer, quoi. Après, ouais, l'Himalaya, c'était chaud parce que quand tu joues à ce jeu-là, un peu faire la course pendant même 20 bornes à 4000, 5000 mètres, bah, des fois, on est à la limite de tomber par terre parce que c'est assez dangereux et puis tu te mets en danger, tu mets en danger le projet, notamment on parle de coûts énergétiques. Bah, tu multiplies là par 4, 5 tes coûts énergétiques et t'as pas le droit parce que t'as pas assez de bouffe déjà pour finir. Alors si tu commences à jouer, ça va mal finir. D'ailleurs, ça a mal fini. Ça a mal fini pour lui, mais bon, c'était dur et pour moi aussi puisque je tombe malade. Ouais. C'était le jus de mangue. J'ai mangé des jus de mangue de 2004, je crois. J'ai bu des jus de mangue, ouais.
Ouais, mais méfie-toi, ça peut t'arriver aussi dans une vieille ferme auvergnate. Tu sais, moi j'ai la famille dans les Cévennes et j'ai le souvenir d'avoir bu une bouteille de coca quand j'étais gamin qui avait au moins 10 ans d'âge. Tu sais, donc ça peut
C'était un bon cru, peut-être. Ça
arriver.
allait du retour.
Oh, dans mon souvenir, les bulles, ça se conserve pas très longtemps. Bon, après, je crois pas que ça puisse te rendre malade. Enfin, franchement,
Ouais.
vu ce qu'il y a dans un coca. Mais en tout cas, ça vieillit pas très bien, ça c'est sûr. Et ça peut arriver. Hein. C'était une vieille ferme, tu sais, où je sais plus ce qu'on y faisait ce jour-là. Bon, bref, ils nous avaient voulu nous faire plaisir en sortant une bouteille de coca qui datait de 10 ans d'avant. Ça peut arriver.
Ah non, mais ça arrive. Bon, le seul truc, c'est qu'au Népal, pour la petite histoire, ceux qui consomment ces trucs-là, c'est des touristes. Et les régions que j'ai traversées, il y avait des régions qui avaient, pour ainsi dire, soit jamais vu de touristes, soit pas depuis longtemps. Parce que pour les locaux, c'est des produits qui coûtent très cher et ils préfèrent, les vendre que les acheter, quoi. Parce que, en gros, si je m'achète 5 coca, pour certains, c'est le salaire moyen au mois, quoi. Ouais, c'est abusé parce qu'ils les vendent très très cher, évidemment, comme en station de ski ou quand tu fais le GR20. Mais ouais, après, ça les fait vivre. Moi, il y avait ça aussi. Je leur demandais tout ça parce que ouais, des fois, bon, j'achetais pas des conneries parce que ça les nourrissait pour un mois, mais parce que j'avais faim. Mais en même temps, je me disais, bon, de toute façon, regarde, ça va les aider. Ils vont acheter ça, la fenêtre, ils vont la refaire. Allez, mange tes sneakers, et puis voilà, fais pas chier.
Oui, parce que alors tu vois ça c'était une question que je me suis posée quand tu regardes un peu les quand tu regardes les images les points où tu t'arrêtes pour dormir en fait c'est des points c'est enfin je dis pas que c'est des Airbnb mais c'est des quoi c'est des points où tu sais que tu peux loger où ça a été repéré tu sais que tu leur as commandé le repas avant enfin tu vois vraiment comment ça se passe?
En fait, il y avait deux choses. Moi, j'ai toujours un espèce de plan de vol. Là, je suis en train de réfléchir à celui pour la Namibie. En fait, tu calcules à peu près combien d'heures tu vas faire. Donc, ça fait à peu près tant de kilomètres. Tu sais que tu dois t'arrêter à peu près à midi pour manger un truc. Moi, c'est dans la Pampa, c'est dans la Pampa, mais t'as un truc à midi, faites matin, midi, soir. Moi, je casse toujours ma journée comme ça. Hein. Et le soir, ouais, t'essaies d'avoir un lieu un peu humain. Alors, des fois, ça arrivait à 18h et c'est horrible parce que t'as envie de continuer, mais en même temps, t'es mort et tu sais que le prochain village, il est à 30 km, tu vas pas y arriver parce que, en fait, ce qui peut arriver, c'est que c'est 30 km, mais il y a 6000 de D+. Et là, t'as les larmes aux yeux, quoi. Tu regardes, ah non, tu dis, non, laisse tomber, vas-y, on reste là. Et tu repars le lendemain matin très tôt. Ça m'est arrivé 20 fois, ce truc-là. Notamment des fois où j'ai failli y rester parce que j'ai voulu y aller. Et puis, on a pris une tempête de neige, notamment à Kanchenjunga, troisième sommet du monde, où je joue, où je dis, bon, bah, allez, on continue. Et puis, en fait, il fallait pas le faire, quoi. Et surtout, là, on n'avait pas assez à manger, pas assez à boire. Et je l'ai regretté. Du coup, après tout le parcours, ça m'a calmé. Mais non, en fait, chez l'habitant, déjà, au Népal, c'est pas comme en France. Enfin, pas en tous les cas dans les endroits dans lesquels je vais tous les jours. Même si je pense que tu vas au fin fond de l'Ardèche, de l'Auvergne, ou peut-être dans les Pyrénées ou dans les Alpes, ou j'en sais rien, t'arrives. Enfin, je dis ça m'est arrivé de demander de l'eau et on m'a dit non, on n'a pas d'eau. Pas, vous n'avez pas d'eau, pas vraiment d'eau. Non, on n'a pas d'eau. Okay. Les gens, ils me refusaient carrément. Ils croyaient que j'allais les cambrioler. Mais non, je pense que tu peux recevoir un accueil de gens qui disent monsieur, allez-y, il est 20h, on vous offre le couvert et dormir. Là-bas, c'était un peu ça, quoi. C'est un peu ça parce que le village, il y a 12 habitants. T'arrives, il est 22h. Tu sais que ça va mal se passer. Si tu dors pas là, il y a de la pluie qui peut vite arriver. Ou il nous arrivait une fois on était vraiment en galère et on n'arrivait pas à voir le prochain village. C'était les anciens, c'est les contreforts du Tibet en fait. On a longé toute la frontière tibétaine et genre on était à 500 mètres de la frontière. Et donc c'est que des communautés tibétaines là et on voyait rien. Mais rien, rien. On devait longer une rivière. D'ailleurs, je suis tombé dedans trois fois parce que je trouvais plus la route. Et plusieurs fois, j'avais le vélo sur dos comme ça et j'étais perdu. Je commençais à paniquer et en fait, je commençais à entendre des cloches de yak. Et en fait, on arrive dans une espèce de hutte, mais une hutte entre bâches plastiques et des bouts de bois, quoi. Et en fait, c'était un couple d'éleveurs de yaks. Et ils en avaient un yak, ça vaut 10 000 euros. Et je crois qu'ils en avaient pas loin de 50. Donc en gros, ils étaient millionnaires pour le Népal, quoi. Et ils vivaient dans cette hutte, quoi. Donc il y avait du feu, il y avait de la fumée partout. On est rentré là. Et moi, j'étais au seuil de la mort, quoi. Je me suis allongé et j'ai attendu. J'ai dit, vous me réveillez quand c'est prêt. Et ils ont mis 1 heure et demie à me faire à manger. Et puis j'ai mangé, j'ai bu un truc et je me suis endormi. Je me suis endormi sur un tas de bois et j'avais la trace du bois derrière dans mon dos le lendemain. Enfin, j'ai eu mal pendant 3 jours. Mais ouais, c'est drôle parce que cette histoire, je pense que j'ai dû la raconter 3 ou 4 fois, mais elle m'a vraiment marqué parce que ces gens-là, ils m'ont tout donné, quoi. Tu vois? Bon, on leur a donné un peu d'argent, c'est normal. Mais enfin, pour eux, c'était pas mal d'argent, même. En gros, je leur ai donné 10, 15 euros pour un repas et la nuit dormir sous une tente. Et eux, ils étaient trop contents de nous accueillir. On leur expliquait et ils se rendaient même pas compte de où c'était, tu vois. Parce que mais ça existe en France aussi, mais ils étaient jamais allés plus loin que le Tibet parce qu'ils revendent les yaks en Chine et au Tibet, donc. Mais on leur disait, ben, on arrive de là, c'était à 500 km. Il dit, je connais pas. Juste, je suis jamais allé si loin, quoi. Ouais, c'est le Népal, quoi. C'est le Népal.
Qu'est-ce que tu vois, si tu devais y retourner, par exemple, tu te dirais sur le plan gestion de l'énergie, de l'alimentation, des choses comme ça, il y a des trucs que tu calculerais différemment?
Ouais, en fait, je dis toujours ça, et puis c'est toujours difficile. Là, je suis en train de projeter mon projet Namibie, et j'ai envie d'avoir des choses différentes. En fait, moi, l'information principale, c'est que je pars sans assistance. Donc, déjà, je vais pas avoir un mec qui va arriver en hélico et me donner un truc. Déjà, pas d'hélico dans mes projets, mais là, quand tu pars avec 100 kilos de bouffe, c'est 100 kilos. Si tu pars avec 100 litres d'eau, c'est 100 litres d'eau, ça fait 200. Moi, en gros, je sais que je dois ingurgiter au minimum la moitié de ce que je consomme. Mais si je peux plus, c'est encore mieux. Donc, en gros, si je dépense 12 000 calories, il faut que j'en mange au moins 6 000. Mais si je peux plus, c'est mieux, quoi. Et il faut que ça soit digeste, il faut pas que je tombe malade, il faut ingurgiter aussi entre 6 et 10 litres d'eau. Donc tu vois, tous ces trucs-là, ça fait beaucoup de paramètres. Alors j'essaie de faire du qualitatif, de faire des boissons, ouais, avec des BCAA, tu vois, tout ce qu'on m'a appris, toute ma carrière de vélo, avec des protéines un peu partout. Moi, je mange pas du tout de viande, comme je le disais. Alors déjà, ça enlève une source de protéines, mais bon, on va dire qu'au Népal, par exemple, ils mangent très très bien. Enfin, ils sont d'ailleurs pas très gros, sauf souvent les riches qui sont à Katmandou, à la capitale, ils mangent pas bien, mais sinon tout le monde mange assez bien. Et ouais, j'essaierai de paramétrer différemment, de faire un plan, mais j'ai vu 5 diététiciens depuis, et il n'y en a pas un qui m'a sorti un truc. Si, il y a un an, j'ai rencontré Thierry Marx et c'est le premier qui m'a un peu subjugué, quoi. Parce qu'il m'a dit, OK, là, je m'occupe de Thomas Pesquet. Et il me dit, simple, lui, son truc, c'était. Moi, en fait, il avait aîné de MacArthur avant pour le Vendée Globe. Il dit, c'est simple, il faut un plaisir. Donc, pour Thomas Pesquet, c'était moelleux au chocolat. Il voulait un moelleux au chocolat et un super repas de Noël. Et il me dit, pour toi, moi je lui ai dit, je vais traverser les 6 déserts les plus durs du monde. Il me dit, ça m'intéresse. Il me dit, je veux quelque chose qui soit ultra light pour toi, ultra compact et qui soit facile à préparer. Et à partir de ce moment-là, c'est possible de le faire, mais tu vois, ça me coûte cher. Et voilà. Donc, faut que ça soit sponsorisé, tout ça. Mais ça, c'est un projet, par exemple, qui m'aurait vraiment plu. Tu vois, l'autre truc, par exemple. Là, quand une marque bretonne vient me voir, ils me disent, voilà, nous on fait du miel naturel, c'est ça notre projet. Le miel, je sais que ça me fait du bien, ça m'a fait du bien tout au long de ma vie. Ça, je dis oui. Si on me dit, voilà, mec, nous on fait des shakers de protéines dégueulasses qui vont te faire mal au bide, j'y vais pas. J'y vais pas parce que je sais que moi, ça me fait du mal. Même s'il y a de l'argent, ça m'intéresse pas. Parce que je vais mentir aux gens et moi je vais mentir. Alors je vais vers des choses le plus naturelles possible, d'où le dalbat, d'où des trucs. En fait, les Népalais mangent bien, ils sont assez forts, ils ont une belle peau, ils ont des beaux cheveux, ils ont l'air en forme. Après, tu as toujours des cas spéciaux. Mais tu vois, c'est des gens qui sont quand même solides, hein, et pas pour rien, parce qu'ils mangent qualitativement, quoi. Donc j'ai essayé de suivre ça. Mais voilà, comme m'a dit un médecin, c'était il y a longtemps quand j'étais coureur cycliste, il m'avait dit, mon médecin en Suisse, il m'avait dit, mais vous n'êtes pas chinois, Steven. Les Chinois mangent comme des Chinois, les Africains mangent comme des Africains et les Européens mangent comme les Européens. Et moi, j'ai toujours voulu être un Africain en Afrique et un Népalais au Népal. Et c'est pas évident, je pense qu'il y a une génétique.
Alors, il y a un truc quand même qui m'épate, parce que je pense que tout le monde s'arrêtait sur le nom. Donc, tu as dit Thierry Marx, donc, et puis je viens de chercher en même temps sur Google pour voir un petit peu par curiosité. Donc, c'est-à-dire que tu peux demander à Thierry Marx de te faire des quoi, de te préparer des recettes, des plans culinaires, des choses comme ça?
En fait, ouais, Thierry Marx, il a travaillé pour des aventuriers. En fait, son truc à lui, bon, il est grand chef. Je crois qu'il est toujours au Shangri-La. Il est dans des grands hôtels, dans des palaces. Il a plein de partenariats avec des marques. Il a ses boulangeries à lui, il a ses restaurants à lui, etc. Il a tout son business. Il fait des écoles de cuisine. Enfin, c'est un mec assez extraordinaire, très médiatisé. C'est le chef le plus médiatisé en France et dans le monde. Et oui, Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai une amie qui faisait du lobbying un peu auprès de chef pour moi et auprès de diététicien pour ce problème de l'Himalaya. Et elle lui explique mon problème parce qu'elle s'occupait un peu de sa com et elle me dit, mais il faut rencontrer Thierry. Je dis, Thierry quoi? Bah, Thierry Marx. Elle dit, bah, on y va demain. Je dis, bah, on y va demain. Elle me dit, ok, bah, on programme ça. On programme. Un mois après, j'étais au Shangri-La. Il avait ses fringues de chef, voilà, Thierry Marx. Il y avait tous les Chinois qui s'arrêtaient, mais toutes les 15 secondes. Monsieur Marx, Monsieur Marx. Et c'était hallucinant, quoi. Je dis, mais moi, je suis là quand même, si vous voulez me prendre en photo. Et un mec, ouais, un mec super smart, assez incroyable, au rendez-vous 30 minutes. Et moi, je lui expliquais, c'est ça mon projet, c'est ça mon rêve. Tu peux faire quoi pour moi, en gros? Et il m'a dit, ok, j'ai fait ça pour Thomas Pesquet, pour aller, en gros, c'était pour aller dans l'espace, j'ai fait ça, pour gagner le Vendée Globe, j'ai fait ça, et pour d'autres projets, je projette de faire ça. Et moi, je m'intéresse à la nourriture de demain, qui va être compacte, qui va être ultra légère, qui résiste à moins 50 degrés, à plus 50 degrés, ta, ta, ta. Et donc, il m'a dit, c'est un projet qui m'intéresse, on le finance et on y va. Voilà. Et mon seul truc, c'est aujourd'hui, j'ai pas été capable, parce que je suis pas bon là-dedans, hein, mais j'ai pas été capable de trouver les financements pour faire un projet pareil avec lui, mais c'est dans le pipe, ouais. Donc oui, Thierry Marx, c'est partie des trucs qui me donnent envie, ouais.
Ah ouais, non mais alors tu vois, c'est un truc qui est incroyable. Et c'est vrai que je mettrai des liens parce que en faisant quelques recherches, effectivement, j'ai vu qu'il avait des, notamment pour Thomas Pesquet par rapport à, au centre, alors c'est le Centre français de l'innovation culinaire, pour ceux qui veulent chercher un petit peu, hein, c'est par ce biais-là
Ouais.
qui fait ça. Donc comme quoi, tu vois, moi je découvre des trucs qui sont assez incroyables. J'imaginais pas du tout qu'il faisait ça. Par contre, ça me surprend pas, connaissant le personnage avec son amour de la finger food, etc., de tout un tas de produits, puis du sport, etc. C'est vrai que ça me surprend pas, en fait.
Ouais, c'est un sportif, il est ceinture noire de judo, enfin de plusieurs sports de combat. Il est hyper branché, philosophie, méditation, apaisement, développement personnel, mais tout ça dans un cadre, voilà, c'est son cadre perso. Mais c'est un mec, ouais, c'est un mec incroyable. Et oui, il a ça avec un associé. Et il me dit, moi, ça m'intéresse. Il me dit, moi, clairement, on y va. Et puis on avance. Mais ouais, c'est concret et ça marche vraiment. Parce que Thomas Pesquet, je crois que là, une nouvelle fois, il est reparti avec. Avec sa bouffe à lui. Après, je sais pas sur SpaceX comment ça se passe, mais ouais, c'est un mec de confiance.
C'est marrant parce que quand on parle de vélo, on pense tout de suite aux pros, au Tour de France, aux... Moi, je vois des cyclistes qui pèsent 40 kilos avec rien de masse grasse sur eux, etc. Et je me dis, dans ta carrière, enfin, de cycliste, t'étais en équipe? Enfin, je sais pas.
Ouais, j'ai été coéquipier d'Arnaud Demar qui a gagné des étapes sur pratiquement tous les grands tours. L'année dernière, il gagne 4 ou 5 étapes sur le Giro. Et ouais, j'ai couru avec plein de mecs, avec Thibaut Pinot, avec Quintana, Froome, Sagan, voilà, tous ces mecs-là qui sont chez les professionnels aujourd'hui. Donc je connais un petit peu. Après, oui, je suis gros. Non, mais en fait, ton corps, il stocke et il s'acclimate à ce que tu lui donnes. Et disons qu'aujourd'hui, si j'étais dans le peloton, j'aurais absolument pas le niveau de ni suivre une course élite ni une course professionnelle, encore moins quoi. Mais par contre, je peux rouler pendant, on va dire entre 6 et 700 km en 24 heures sans m'arrêter plus de 30 minutes, quoi. C'est ça la différence. Après, bon, chacun son truc.
Ouais, c'est une autre forme de cyclisme totalement différente. Et c'est vrai que on se dit que le même sur le plan alimentaire, les coureurs dans ces équipes-là et tout. Puis on parlait d'ailleurs de certains mélanges qu'ils pouvaient avoir, de produits qu'ils pouvaient avoir sur le plan alimentaire sur les grandes équipes qui coûtent cher, etc. C'est des approches qui sont totalement différentes. Finalement, t'as changé totalement de monde.
Ouais, j'ai toujours été gourmand, hein. Et je pense qu'il y a toujours beaucoup de cyclistes qui sont gourmands. Après, ouais, comme on disait dans le vélo, manger, c'est tricher, quoi. Et c'est un espèce de, je prends toujours cet exemple-là, mais J'avais l'impression d'être un espèce de mannequin anorexique, à la limite d'analphabète à un moment, parce que je me trouvais bête et comme un espèce de cheval de course, mais c'était malsain en fait. Ce rapport à la nourriture, quand je me rappellerai toujours en sport-études, j'étais à 58,5 kg une fois, je suis descendu à 58,2 kg, aujourd'hui j'en fais 81 aujourd'hui, je crois. Et voilà, la différence, elle est notable pour la même taille. Et ouais, j'étais incroyablement fort sur le vélo, mais tu m'emmenais 30 minutes dans les magasins, j'étais à la limite de tomber dans les pommes, et j'étais pas bien, quoi. J'étais dépressif, je me prenais la tête avec la bouffe, avec les gens, parce que du coup, quand tu vas manger chez quelqu'un ou que t'as une copine, elle te fait à manger, bah, tu refuses de manger, s'il y a quoi que ce soit, tu manges pas, quoi. Aujourd'hui, je mange un peu ce que je veux. Après, je mange pas des conneries tous les jours, mais je me fais plaisir, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est le rapport, parce que c'est vrai que je me dis, c'est l'alimentation d'un cycliste pro doit être tellement contrôlée pour arriver, parce que il y a une dépense, là, eux, ils roulent à une vitesse en plus que la dépense énergétique doit être juste énorme.
Ouais, mais c'est comme une Ferrari. Tu vois, la voiture ou une Formule 1, la voiture, elle est hyper légère. Évidemment que pour aller vite, elle consomme beaucoup de pétrole et tout, mais en fait, elle est tellement bien réglée que tout est parfait, quoi. Alors qu'une vieille voiture, tu vois, qui est vraiment bien chargée et tout, bah, elle crame du pétrole, elle fait de la fumée noire, quoi. En fait, quand t'es pro à ce niveau-là, bah, on disait, faut toujours pisser transparent avant le départ, mais c'est exactement ça. Il faut que ça sorte vraiment nickel et que tu sois toujours propre à l'intérieur. Et pour ça, ouais, tu manges pas grand-chose, quoi. Enfin, les quantités, elles sont vraiment petites parce qu'en gros, t'as pas besoin d'énormément d'énergie dans le moteur, en tous les cas à stocker, parce que le but, c'est d'être très léger et comme un boxeur. Bah manger soit juste avant le départ, soit pendant la course, toutes les 10, 15, 20 minutes, et boire pareil toutes les 10, 15 minutes. Et voilà quoi, mais tu as toujours ajouté de l'essence dans le moteur, et par contre, quand la course elle est finie quoi, faut que tu sois le plus léger possible, le plus déshydraté possible, et tu te réhydrates, et le lendemain ça repart, et voilà. C'est pour ça que c'est dur, et que quand tu arrives dans le camion et que ton soigneur, moi je me rappelle, on avait des sandwichs après les courses et quand je contre-performais, je les mangeais pas quoi. Je refusais, je disais tiens, c'est pour vous les gars. Et voilà, mais maintenant je pense que je mangerai tous les paquets de gâteaux qu'il y a dans le truc. Mais...
Ouais, à l'époque, il te sortait pas 12 pains au chocolat dans le bus, quoi.
Ah non, il n'y avait pas du tout des pains au chocolat, mais quand je dis sandwich, ouais, c'était des trucs, à l'époque je mangeais encore de la viande, mais des trucs jambon beurre en triangle là, qui te faisaient... C'était cool, hein, ou un gâteau de riz. Alors, t'étais trop content de l'avoir, tu le mangeais, mais ouais, c'était quand même assez diététique.
Comment dire, sur tes aventures, tu dis donc tu pars avec, parce que c'est ce chiffre-là, tu vois, depuis tout à l'heure, il me tourne dans la tête. Ces histoires de tes 100 kilos de nourriture, ton eau, etc. Comment
Ouais.
tu transportes ça en fait?
Bah, je les transporte pas. Quand je fais du bikepacking, je prends le minimum. C'est ça ma problématique et d'où Thierry Marx, d'où toute cette recherche. Parce que, par exemple, quand tu fais, ça dépend du projet. Quand je traverse le lac Baïkal en autonomie avec Perrine Fage, avec Perrine, le truc, c'était, on était 100% lyophilisé et tout le reste, c'est du plaisir, quoi. Alors, on avait du chocolat. Un espèce de pot de Nutella russe, voilà, deux trois conneries, une mini bouteille de vodka qu'on m'avait offerte la veille parce que j'avais un problème avec mon vélo et enfin je m'étais fait percuter sur le lac par une voiture et du coup voilà un russe me donne ça, tu vois plein de petits trucs et des plaisirs, des fruits secs. Le problème des fruits secs, c'est que quand tes dents sont un peu gelées, tu manges un fruit sec, ça te découpe là-dedans. Enfin, tout est un peu compliqué. En fait, plus le milieu est extrême, plus c'est compliqué. Mais quand c'est froid, tu peux manger tout ce que tu veux. Donc, faut essayer de faire qualitatif, donc le plus gras possible et voilà, sucré, si tu peux ou si tu as envie, mais tu as plutôt envie de manger gras. Et quand il fait chaud, bah, un peu moins gras. Le moins sucré possible et beaucoup d'eau, quoi. et quand même des électrolytes, des voilà. Donc c'est faut trouver un compromis dans ce truc. Moi, quand je pars par exemple pour la Namibie, je pense que je vais partir avec entre 4 et 5 kilos de bouffe. Voilà, au départ, ce sera ça. Et entre 4 litres et 5 litres d'eau. Et après, bon, l'eau, tu peux en trouver, tu te débrouilles, t'achètes, voilà. Mais en gros, c'est ça, parce que sinon, tu vois, là, je viens de parler de 5 et 5, ça fait déjà 10 kilos de plus. Donc en gros, je fais 80 kilos, tu rajoutes 10 kilos, ça fait 80, 10 kilos, plus le vélo, ça fait 100 kilos. Donc déjà, je suis 100 kilos pour pousser le vélo, plus moi, plus mes affaires. Donc voilà. Mes devices, mes affaires, parce que je vais avoir deux tenues et puis deux, trois trucs, parce que la nuit, il fait très froid dans le désert. Et après, dès que tu prends une connerie en plus, bah, t'es foutu, quoi. C'est cool, hein, d'avoir des souvenirs des proches, une brosse à dents, mais ça sert à rien, quoi. Vaut mieux la casser en deux. Certains en ultra, ils la cassent en deux, ouais, pour avoir quand même une brosse à dents. Ouais, j'aurais quand même une brosse à dents, mais bon, c'est le minimum, quoi. Savon, je pense que j'en aurais pas, par exemple. Tu vois, serviette, j'étais en train de me poser la question cet après-midi. Est-ce que je prends une serviette ou est-ce que je me suis avec un maillot, ouais. Comme ça, c'est au gramme près un peu, quoi.
Non mais c'est marrant parce que c'est les problématiques. Bon là t'es sur du vélo, moi j'avais lu des récits sur le marathon des sables, c'est en coureurs
Ah ouais,
où ils sont
pareil.
en train de chercher le poids pour le parce qu'ils portent le sac, donc forcément ils
Ouais.
sont en autonomie, donc ils ont un calorie minimum à emporter avec des
Ouais.
stratégies, etc. On a vu des coureurs sur des courses d'ailleurs. J'ai vu un coureur qui avait emporté que des noix de cajou, je sais pas quoi, tu vois, sur
Ouais.
des courses et qui s'est énervé contre l'organisation parce qu'il n'avait pas de ravitaillement qui lui convenait ou je sais pas quoi. Il avait
Ouais.
Tu vois, il avait stocké des choses. Donc il y a plein de
Ouais.
stratégies comme ça. Et j'ai eu un invité il y a pas longtemps, qui lui traversait, ils ont traversé l'Atlantique à la rame. Et
Ouais.
il parlait le même problématique que toi de cette histoire de dire, bah, on dépense énormément de calories, mais
Ouais.
on n'est pas capable de les ingurgiter. Donc finalement, c'est le muscle qui doit nourrir la bête.
Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai du volume musculaire. Là, je suis un peu gras, mais ça va se perdre. Ouais, je pense qu'en 5-6 jours, déjà, je serai deux fois plus sec. J'aurais perdu de l'eau et voilà. Mais ouais, c'est chaud, hein. Et puis, Marathon des Sables, si, c'est 5 jours. Mais quand tu pars pour 20 jours ou une transat, je sais pas, à la rame, ils ont mis combien? 30, 40, 50, 60 jours?
45 jours ou 47.
Ouais. Tu vois, bah, t'imagines, tu pars pour 50 jours dans ta tête où tu te dis, bon, 50 jours, quoi. 50 jours. Tout ce qu'il y a sur le bateau, c'est tout ce que tu peux manger et rien d'autre. Là, tu réfléchis, quoi. Là, tu réfléchis à chaque truc et tu sais que tu calcules tout. Si tu peux pas te faire plaisir, ah, putain, ce soir, on se fait craquer le bide, quoi. Parce que si tu manges un truc de trop, c'est comme les gars du Vendée Globe. Il y avait un gars qui parlait l'autre fois, c'est comme en expé, là. J'ai une grosse expé en Antarctique aussi parmi les déserts. Si tu prends de la bouffe pour 50 jours et que tu mets 54 ou 55 jours, tous les jours, t'as les gouttes qui coulent parce que tu te dis putain, là je galère. Voilà quoi, c'est pas évident. Faut paramétrer ton truc, faut tout réfléchir, un peu analyser. Et puis après faire le truc, ça reste du sport, ça reste du plaisir, mais. Faut pas faire le con parce que si te manque, ça va être dur quoi. La fin, elle va être compliquée.
Et oui, parce que finalement, si t'as plus, c'est ce que tu disais sur la traversée hein, de l'Himalaya, c'est que quand t'as plus d'énergie à la fin, pour faire avancer le vélo, ça avance plus quoi.
Ouais, t'as plus d'énergie. Moralement, c'est dur. Hein, tu te sens faible. Enfin, c'est la même chose, ouais, je prends toujours l'exemple de la voiture, mais c'est la même chose qu'une voiture. Si au bout d'un moment, bah elle tient quoi, elle va tousser un peu, et au bout d'un moment, elle s'arrête quoi. Sauf que là, je devais continuer, pousser le vélo, essayer de le porter, essayer de. Pff, ouais, c'est dur, surtout quand tu vois les vitesses instantanées, ou comme sur le Baïkal, où tu vois la vitesse. Bah, tu vois, j'ai fait l'Ironman de Nice, enfin, j'ai fait deux Ironman, mais. Où j'ai vu une grand-mère me doubler sur le marathon, qui était en train de marcher comme ça avec sa canne. Et moi, je la vois me doubler. Et mon ex-copine me dit, hey, t'es super, ne lâche pas et tout. Et je dis, elle se moque de moi, je pense. Parce que là, je viens de voir un truc passer à côté de moi, là. Il y a une dame qui m'a doublé, je lui demande, il y a une dame qui m'a doublé là. Non, 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 c'est pas grave. Et si, il y avait une mamie qui encourageait les coureurs. Bon, elle était en forme, hein, mais quand même, quoi. Elle marchait pas à 15 à l'heure. Ouais, je dis, merde, là, je suis au fond, quoi. Et là, c'est des ressources mentales. Et là, ouais, soit tu craques sur tout et tu fais le con et tu te jettes sous la première douche et tu bois toutes les conneries énergétiques que tu vois. C'est pas une bonne idée. Et sinon, ouais, tu vois, en Ironman, c'est toujours la méthode du coca-eau. Dès que tu vas pas bien, coca avec de l'eau, coca avec de l'eau. Enfin, j'ai fait que ça, j'étais encore plus mal. Il n'y a pas de science exacte, mais je pense qu'il faut surtout tester les choses à l'entraînement, tester les choses la préparation, on va dire, et ouais, dans les phases off, parce que c'est là où tu peux te tester et faire les erreurs. Après, si tu fais les erreurs dans le projet, de toute façon, tu en feras tout le temps. Donc, c'est la vie, hein. Quand on apprend toujours dans les moments les plus difficiles, c'est là qu'on apprend le plus. Donc, faut accepter, puis attendre que le vent tourne un peu, ou en tous les cas, qu'il s'apaise, parce que des fois, ça peut durer longtemps. L'Himalaya, ça a duré une petite semaine. Ouais, la fin, hein, c'était un peu dur, ouais. Une semaine à 2 km heure, ça va pas vite. Ouais.
Allez, pour finir, tiens, parce que tout le monde va se poser la question de se dire, est-ce que t'importe, parce que tout à l'heure tu parlais des sneakers, tu parlais des pains au chocolat, des choses comme ça, est-ce que dans ton sac, quand même, bon, on sait que t'as pas beaucoup de place, est-ce que t'emportes un truc, tu te dis, bon, il y a un moment où ça va pas bien, ou j'ai une espèce de un petit remonte moral que j'aime bien emporter, quelle que soit l'aventure, j'aime bien emporter ça, quoi.
Ouais, c'est souvent, c'est pas, je l'emporte au départ, c'est souvent un truc au chocolat. Bon, quand il fait 60 degrés, c'est pas bon, mais ouais, il y aura certainement un petit truc, mais je le crame vite, hein, c'est souvent. Mais sur le Baïkal, par exemple, c'était ce truc de vodka là qu'on m'avait offert, et il y a souvent un truc que quelqu'un m'a donné. Bon, souvent, ils savent que j'aime bien bouffer, du coup. C'est de la bouffe, mais sur le Baïkal, c'est de la vodka. Il y a toujours un petit porte-bonheur gustatif. Après, j'essaie de faire attention, parce que ça, ouais, si tu pèses tout, je me rappelle d'une fois en barre énergétique, je crois j'avais l'équivalent de 4 kilos sur le vélo, quoi. Ça pèse lourd, très vite. Et puis des fois, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est surtout de calibrer les choses, de tester, de prendre des choses qui nous conviennent, parce que ce qui convient à quelqu'un, ça ne nous convient pas à nous, et ainsi de suite, quoi. Parce qu'il y en a plein qui ont des règles, voilà, les règles de base de la diététique, et ils vont te donner des méthodes extraordinaires pour changer ta vie, et oh, tu fais n'importe quoi, tu devrais pas manger ça. Et ces gens-là, tu sais, je leur mets sur 24 heures, je leur mets la moitié du temps, tu vois. Alors, tu peux me donner des leçons, mais ça veut rien dire. Je ne serais pas plus fort si je fais comme toi. Donc, tu vois, chacun son truc, en fait. Et puis, souvent, l'intuition, elle est souvent bonne. Évidemment, si tu bouffes 2 litres de glace sur un marathon d'Ironman, tu vas avoir un petit problème, même sur un ultra. Mais souvent, l'intention de se dire, ah, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de boire ça. Par exemple, moi, je mélange du jus de fruits quand j'ai plus de produits énergétiques, ou j'ai envie de me rafraîchir. Je mélange du jus de fruits avec de l'eau. Tout le monde me dit, mais tu vas mourir. Pas du jus d'orange, hein, mais d'autres jus. Genre l'autre, bah, en Auvergne, j'ai mis du jus de poire avec de l'eau, et j'ai reçu plein de messages. Oh, tu vas être malade, tu vas voir. Non, j'ai pas du tout été malade. Mais ouais, quelqu'un d'autre qui fait ça, je pense qu'il est aux toilettes pendant 24 heures. Mais après, voilà, ça te nettoie des pains au chocolat, peut-être. Mais non, chacun son truc, je pense. Chacun son truc, son organisme, sa mémoire du corps, sa mémoire des, tu vois, des organes et tout. Il n'y a pas de vérité, quel que soit ce que tu fais.
Oui, puis alors tu sais, ma femme qui fait des études de naturopathie m'a dit un jour que elle avait lu, alors je sais plus dans quel livre, que quand le corps il te demande quelque chose,
Ouais.
c'est qu'il en a besoin en fait. S'il te
Ah
demande
bah
du sucre, c'est qu'il en a besoin.
ouais, c'est exactement ça. Et puis, en fait, quand tu es dans l'extrême, tu as souvent des envies folles, mais c'est souvent les bonnes, quoi. Des fois, tu as envie d'un truc, et bon, évidemment, si c'est un truc totalement extrême, mais Mais sinon, ouais, si t'as envie de boire, il faut boire, quoi. Si t'as envie de manger, il faut manger un truc, et ainsi de suite. Il faut essayer d'être un peu conscient de son corps et de son esprit, et d'essayer de relier tout ça, et pas être un robot comme ça, comme un gogolito, comme j'en vois des fois sur les marathons dans Paris. Le gars, il est au seuil de la mort, et les gens lui crient « bois, bois », et il continue comme ça, et le mec, il finit déshydraté. Et ils prennent tous le mur du marathon, mais c'est juste de la déshydratation pour la plupart, parce que c'est une question de prépa, mais aussi une question d'alimentation, de boisson, tout ça.
Alors, eh ben écoute, on va finir là-dessus, sur ces bonnes paroles, parce que c'est vrai que c'est une logique hein, d'arriver à se connaître, d'arriver à comprendre comment on fonctionne, hein, tous les entraînements. Et je me doute bien que tous les kilomètres que tu ingurgites en ce moment te servent justement à préparer tout ça. Mais finalement, c'est quand tu t'en vas en Namibie?
Le 10 juin, ouais, 10 juin, bah, juste après le Gravelman Auvergne qui se tient le 7, et juste après je pars, donc mes valises seront déjà prêtes, et je serai prêt pour y aller, quoi. Je serai prêt pour la Namibie, pour ce projet, ouais, un espèce de la forme de l'Afrique en Namibie. Alors il y aura un long passage au Botswana aussi, où je rêve de longer le delta Okavango, enfin, c'est un désert de Kalahari, désert de Namib, rouler avec les éléphants, rouler avec des animaux de la savane, des animaux qui me faisaient rêver de tout petit, ouais, montrer l'exceptionnel, montrer un désert, désert du Namib qui a 5 millions d'années, alors que le Sahara a 5 000 ans, tu vois, montrer la réalité de ce monde, montrer des peuples, on va dire hyper reculé, à la limite d'être autochtone, tu vois, c'est des peuples en disparition, tu vois, comme j'ai fait rouler les Maasai sur mon vélo en Tanzanie, bah là ça va être ça aussi, ça va être montrer le monde que bah qu'on montre pas, et puis ou pas beaucoup, et puis montrer aussi le dérèglement climatique, montrer ce que c'est la vie dans les déserts, l'adaptation des animaux, des humains aussi dans ces univers un peu hostiles. Et après, l'adaptation, ça veut dire ouais, voir ce que je mange, ce que je bois, ce que je fais, parce que j'espère avoir assez à manger et à boire, mais et comment gérer, quoi. Ouais.
Eh ben écoute, on va suivre cette aventure avec un. On pourra suivre ça où, tiens d'ailleurs, comme ça.
Bah, sur mes réseaux sociaux, Instagram, c'est @StevenLeYarrick, Facebook, et après, je pense qu'il y aura un média partenaire ou plusieurs médias partenaires, mais il y aura, je l'espère, des choses un peu partout. Il y aura un caméraman et un photographe qui vont venir 5 jours ou 7 jours là-bas, selon les budgets que j'arrive à en sortir, et pour filmer un peu l'extraordinaire de ce projet, quoi, filmer cette nature luxuriante et intense, quoi, pour le Kalahari, et puis la partie Namib qui va être extraordinaire, parce que ça va être des dunes en perte de vue, et puis des paysages qui me font rêver, ouais, des trucs absolument extraordinaires, ouais, pour moi. Donc ouais, un peu partout sur les réseaux sociaux, et puis j'espère un peu à la télé.
Et ben, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci en tout cas beaucoup pour ben, toutes ces informations, cette vision en fait, hein, tout simplement aussi de l'aventure et des coulisses de ce qui se passe, notamment sur ce qu'on mange ou ce qu'on n'arrive pas à manger ou ce qu'on aimerait bien manger parfois. Je t'ai pas demandé si tu avais une recette préférée, parce que bon, recette préférée quant à l'aventure, c'est pas trop ça. Mais tiens, est-ce que tu as un petit plat, tu te dis, bon, allez, avant de partir en Namibie, je sais que je vais manger ça parce que ça risque de me manquer après.
Ah, les pommes de terre de ma maman qu'elle me faisait quand j'étais petit, et quand je la vois qu'elle me fait, ouais, c'est un truc de breton, ouais. Les pommes de terre, c'est un truc qui me fait du bien, et cette chance, c'est que la pomme de terre est assez universelle. Peut-être que j'aurai des pommes de terre là-bas en Namibie. Ça va me rappeler un peu tout ça.
Et ben c'est ce qu'on regardera, tiens, avec attention, on regardera ça, on surveillera, on regardera s'il y a les pommes de terre. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet épisode qui était super sympa. Moi, j'ai hâte de suivre hein, la suite de tes aventures, tout ça. Et puis, bien sûr, bah, je mettrai tous les liens en note de l'épisode pour qu'on arrive à te suivre, qu'on t'encourage et qu'on regarde ça. Puis j'espère, donc j'imagine qu'il y aura un documentaire aussi qui sortira un petit peu plus tard, c'est dans les plans.
Ouais, l'idée c'est même de sortir une série sur les 6 déserts les plus durs du monde, donc ce projet 666 qui est encore en financement, que ça soit financement participatif ou avec des partenaires, et ouais, l'idée c'est de financer une série de documentaires, de 6 documentaires sur ce projet, et puis essayer de ensuite le diffuser.
Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, moi, je recommande de regarder ta grande traversée de l'Himalaya en VTT. C'est sur Disney+, hein, je crois que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps.
Ouais, c'est ça, Disney+. Là, c'est encore, il reste encore 40-50 jours, je crois, sur Disney. Et puis après, il y a ma traversée de Paris à Dakar en vélo, c'est encore sur YouTube. Et puis après, il y a 2-3 trucs. Sur YouTube aussi, sur l'Himalaya et sur d'autres aventures que j'ai fait. Voilà.
Et ben voilà, et comme ça on peut faire le tour du monde grâce à toi, tranquillement chez nous, sans dépenser trop de calories, hein, pendant que toi tu pédales sur ton vélo, donc on te regardera faire ça. Non mais c'est vrai, parce que c'est le documentaire, en tout cas sur les Mayas, est très intéressant, parce qu'on voit la difficulté, on voit le vélo, etc. Et puis on voit aussi au bout d'un moment que t'en as marre de Dalbat. Et donc les gens, quand ils regarderont ça, ils comprendront mieux aussi un petit peu le sentiment que tu peux avoir sur certains de ces repas. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec moi. Et puis nous, bah, on se retrouve dans très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, ça sera la surprise. Moi, j'aime bien vous faire des surprises d'invité en invité. Ciao, ciao.
Salut.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.